cherchez pas midi à 14h, car il y a un point sur lequel tous les Français sont d'accord. Il y a la bonne bouffe et la mauvaise bouffe. Il y a restaurant et restaurant. Je m'explique. Il y a du chemin.
Vous venez d'entendre un extrait du film de 1976 de Claude Zidi, L'aile ou la cuisse, dans lequel le personnage de Charles Duchemin, guide gastronomique incarné par Louis de Funès, engage un combat contre la malbouffe. Bienvenue dans notre podcast où nous allons vous parler de la responsabilité sociétale des chefs, le temps d'un café. Nous serions tentés de croire que les chefs cuisiniers sont sortis de l'ombre avec la fameuse émission Top Chef, mais c'est loin d'être le cas. Dès le XIVe siècle, Guillaume Tirel s'illustre à la cour du roi de France comme cuisinier. On lui donne même, à tort, la paternité de l'un des plus célèbres recueils de cuisine de l'histoire, Le Viandier. Si, après cette période, les cuisiniers se font plus discrets, souvent dans l'ombre des maîtres d'hôtel, d'autres grands noms de la cuisine nous sont restés, comme Auguste Escoffier au début du XXe siècle et son guide culinaire. Mais c'est réellement dans les années 1950 que les chefs cuisiniers sont revenus sur le devant de la scène et marquent leur entrée à la télévision. Dès 1954, Raymond Oliver, le chef étoilé au guide Michelin, prend les commandes d'une émission de recettes à forte audience, Art et magie de la cuisine. Par la suite, les émissions de chefs se multiplient jusqu'au XXIe siècle avec les grands noms que vous connaissez tous aujourd'hui, Joël Robuchon, Philippe Etchebest ou encore Cyril Lignac. Au regard de cette reconnaissance médiatique, certains chefs ont profité de cet audimat pour se placer en porte-parole de mouvements citoyens. Conscients de leur influence sur l'opinion publique, beaucoup d'entre eux ont de ce fait monté des projets politiques, sociaux ou écologiques qui leur tenaient à cœur. C'est le cas par exemple de Philippe Etchebest qui s'est placé en porte-parole pour soutenir les restaurateurs en cette période de pandémie Covid-19. Ou encore le chef italien Massimo Bottura qui a monté l'association Food for Soul qui crée des soupes populaires dans lesquels des chefs viennent cuisiner pour les plus démunis. C'est dans cette dynamique que le chef Bernard Charret a établi en Touraine des actions engagées. Chef cuisinier, ancien restaurateur à la Chandelle Gourmande, Bernard Charret est à l'initiative d'un grand marché de producteurs régionaux, Convergence Bio, ainsi que du banquet festif et solidaire, regroupant des associations de divers horizons autour d'un grand repas où se mêlent cuisine, art de vivre, musique et personnes de tous les horizons sociaux et culturels. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer pour parler avec lui de cette responsabilité sociétale des chefs. Quand nous demandons à Bernard Charret comment s'est monté son projet de banquet festif et solidaire, il nous répond qu'il s'agit avant tout de réunir les gens.
Ça a été fait très vite parce que j'en rêvais depuis longtemps, quoi. J'organisais déjà depuis, à l'époque, donc ça faisait déjà 10 ans ou 10 ou 12 ans, un gros événement qui est le rassemblement des plus jolis paysans du département qui s'appelle Convergence Bio sur les quais de la Loire. Donc déjà, il y avait cette partie de mettre en valeur le monde paysan et manquer cette dimension du partage du monde paysan avec les gens qui n'y pensent même pas parce qu'ils ont d'autres soucis et d'autres soucis premiers, essentiels comme on dirait aujourd'hui, d'autres soucis essentiels que de s'occuper de la partie culture ou de la réflexion sur d'où vient la nourriture, comment elle est faite, et etc. Alors qu'en fait la nourriture c'est aussi, même si on enlève le côté intellectuel, et de bon sens de sa qualité, c'est-à-dire sans chimie, fait dans des échelles intéressantes, fait par des gens compétents, etc., etc. Tout court, il y a un plaisir gastronomique sur la nourriture quand elle est bien faite, même sans aller y mettre les valeurs intellectuelles derrière.
Quel est l'avenir du banquet festif et solidaire? Peut-être voulez-vous l'agrandir?
Là, c'était 350 personnes. C'est horrible, là, maintenant, c'est même les associations qui viennent vers nous. Et on ne peut pas prendre tout le monde. Et moi, je suis sûr que si je trouvais d'autres cuisiniers ou restaurateurs, on pourrait se faire... Moi, je pense pas que... Il faut vivre la cuisine pour... La cuisine, il faut que tu la vives dans sa construction pour qu'elle touche quelqu'un. Dès que ça devient quelque chose de trop, un repas qui se deviendrait beaucoup trop important, hein, on peut faire 5000 personnes. Mais par contre, à partir de là, tu es obligé de passer à des techniques et à du travail à la chaîne, à tout un paquet de choses qui font que tout à coup, tu mets beaucoup moins de, chacun va mettre beaucoup moins de lui-même dans chacune des tâches.
Pour vous, Ça veut dire quoi, un chef responsable ?
Ça veut dire que d'abord, je pense que les cuisiniers... Quand tu es cuisinier, tu es la personne qui est au centre de, tous les, de toutes les professions de l'alimentation. C'est extraordinaire. Tu vas, chez toi, tu vas rencontrer aussi bien un pêcheur qu'un maraîcher, qu'un éleveur, qu'un cueilleur. Et souvent, d'ailleurs, ils se rencontrent des fois, on se rencontre ensemble parce qu'il y a un machin qui vient te livrer quelque chose ou que toi, tu te retrouves chez un vigneron qui, en même temps, reçoit quelqu'un. Enfin, c'est vraiment, on est au centre de toute une pensée de la production agricole. À ce titre-là, c'est un rôle qui est unique. Il n'y a que cette profession-là qui est en contact avec tout le monde et qui sans arrêt va sentir les choses. C'est le pêcheur qui va dire, c'est vraiment curieux, les niveaux d'eau depuis 5 ans, c'est plus ça, et en même temps, on a telle algue qui arrive, et on ne l'avait pas avant, mais en même temps, tu as un arbo qui lui va dire, ben moi, mes pommiers cette année, bon, je les ai traités à l'argile parce qu'il fallait trouver un autre système, parce que ça ne marchait plus. Et toi, tu finis par faire une synthèse un petit peu de tout ce qui est en train de se passer dans un monde, de toutes les réflexions et les pensées, parce que ces gens sont aussi des chercheurs, chacun dans leur domaine, et qu'on aurait dû être les responsables de la nourriture, notre profession, qui a ce rôle unique, aurait dû intervenir il y a 30 ans pour dénoncer les OGM, pour dénoncer l'alimentation chimique, pour dénoncer, pour sans arrêt intervenir, on aurait dû être les référents.
Nous avons aussi eu l'occasion de récolter l'avis d'Isabelle Ancar, juriste de profession et chercheuse en droit de l'alimentation à l'IEHCA et à l'Université François Rabelais de Tours. Elle est à l'origine d'un projet innovant, la Douda, déclaration universel du droit à l'alimentation. Que pensez-vous de la responsabilité sociétale des chefs ?
Alors c'est la question de la responsabilité sociétale, et ça interpelle les juristes aussi, puisque cette notion de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, est entrée dans le droit aussi. Alors elle est entrée à travers ce qu'on appelle plutôt du droit doux, du soft law, dans des lignes directrices, le pacte mondial des Nations Unies. Alors c'est l'idée que les entreprises ont des chartes éthiques, se sont mises à rédiger des pactes aussi, ont pris des engagements volontaires. Et puis cette notion, pour un juriste, elle est aussi plus contraignante, elle peut prendre une forme de droit dur, et on le voit à travers le droit de l'Union européenne aussi. Quand on voit les directives sur les obligations comptables extra-financières des entreprises, alors ce n'est pas l'obligation de faire des choses vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des droits des travailleurs, vis-à-vis de la qualité des produits, mais c'est quand même l'obligation de rendre des comptes sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on ne fait pas. Et là, tout le monde peut être concerné à travers cette responsabilité, vous voyez, même de façon douce. Donc je me suis intéressée à toutes les initiatives, finalement, qui utilisait le droit pour faire valoir des manifestations de responsabilité, en quelque sorte. Donc on peut, à travers ce concept de responsabilité, aller voir ce qu'en font des chefs. Mais je pense que les chefs n'ont pas plus de responsabilité que vous ou que moi. Chacun a une égale responsabilité dans ce domaine. Par contre, le chef, il a quand même une place privilégiée, je pense, dans la chaîne. Le chef, il est vraiment à la croisée de tous les autres, finalement. Il va chercher ses produits, il les travaille dans son laboratoire, il les offre aux consommateurs, aux mangeurs, aux gourmets. Donc il a cette position quand même charnière de savoir ce qu'il met dans l'assiette.
Quel est votre regard sur les actions engagées des chefs aujourd'hui ?
C'est bien la démarche là, de ces cuisiniers qui organisent de la cuisine pour tous. Parce que si le chef est seul, mais qu'il n'est pas relayé par tous ses cuisiniers à la maison, ça va enfermer la gastronomie, justement, dans un monde étroit. Il a, justement, la vocation, c'est à ouvrir ce patrimoine et à le rendre accessible à tous.
Depuis 2 ans, la Douda est un projet que vous menez. Mais qu'est-ce que c'est, la Douda ?
Donc cette Douda, c'est la déclaration universelle du droit à l'alimentation, parce que j'ai fait ce choix d'en parler au singulier. On pourrait dire déclaration universelle des droits à l'alimentation. Alors j'ai choisi le singulier justement parce que cette déclaration est très longue. Alors comment je l'ai construite ? C'est d'ailleurs un projet évolutif. Je crois que chaque mois je rajoute un petit mot à quelque part. Alors l'idée est partie lors d'un atelier d'écriture sur une déclaration autour de l'alimentation, sur les droits de l'homme, en tout cas sur les droits humains. Sachant que dans le corpus des droits de l'homme, à ce jour, on a très peu de choses. Hein. On a la Déclaration universelle des droits de l'homme et puis le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il ne nous dit pas tout individu a droit à l'alimentation. Hein. Il nous dit les États parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture. Et les États reconnaissent aussi, c'est un deuxième niveau, le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim. Le droit à une nourriture. On peut simplifier et dire que toute personne a droit à une nourriture. Voilà, mais c'est tout. Alors, je me suis dit que l'alimentation était une thématique tellement riche que c'était finalement une formulation assez pauvre. Donc, j'ai choisi de croiser ce droit du pacte avec tous les autres droits du pacte, parce qu'il y a bien d'autres choses dans le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Donc, j'ai croisé le droit à l'alimentation et les autres droits. Donc, le droit donc économique, social et culturel, le droit à la culture. Alors, qu'est-ce que ça donne si on croise droit à l'alimentation et droit à culture? Ça va donner le droit à une alimentation. Alors, après, il fallait chercher la bonne tournure. C'est le droit au patrimoine alimentaire. Vous voyez, on va là faire émerger la notion de patrimoine. Et après, on peut faire ce petit jeu avec tous les autres droits. Le droit à l'information. Donc, le droit à l'information, à l'alimentation. Vous voyez, donc, ça a donné quelque chose d'assez long. À partir de 1, j'ai fait du 40. J'ai fait 40 droits et devoirs.
Merci, Madame Isabelle Ancard, pour ces explications. Nous remercions également Bernard Charret de nous avoir accordé cet entretien pour parler de la responsabilité sociétale des chefs. Nous savons maintenant que ceux-ci ont plus de responsabilités que l'on ne le croit, qu'elles soient au niveau de leur entreprise ou bien de la société, sur le plan social, environnemental et patrimonial, et que les chefs ont la possibilité de réunir du public autour de projets qui leur tiennent à cœur. Cet épisode vous a été proposé par les étudiants en Master Culture et Patrimoine de l'Alimentation de l'Université de Tours, Omer Mallet, Étienne Vincent et Marine Boisjol. La musique est de The Fisherman. Au revoir et au plaisir de pouvoir vous faire découvrir d'autres facettes de l'alimentation durable et responsable, le temps d'un café.